Bonsoir à tous. Tout le monde a. Je crois que la dernière fois, on avait dit qu'on n'utilisait peut-être pas. On va essayer. On est entre nous. On va faire semblant, c'est psychologique. Bonsoir à tous. Donc, bienvenue à nouveau à Saint-Eustache et merci de votre courage, de votre opiniâtreté. C'est presque le printemps, mais la nuit tombe quand même relativement vite. Bienvenue à Marc pour cette séance sur des textes joanniques. Tout le monde a les textes, ce sont de très grands textes. C'est très copieux, mais je pense que de toute façon, l'essentiel, c'est plutôt à la fin, comme souvent, dans le chapitre 4 de la lettre de Jean. Voilà, la dernière fois, vous vous en souvenez, dans cette série de causeries, d'échanges sur la foi dans tous ses états, après une année sur la filiation, l'engendrement spirituel, l'enfantement spirituel, la paternité, la maternité. Nous sommes donc dans la foi. Il y avait une expo au Petit Palais que vous avez peut-être vu. Saint-Eustache avait prêté un très beau triptyque de Keith Haring qui vient de nous être rendu aujourd'hui, qui s'appelait « Dieu mode d'emploi ». Et moi, je disais sans cesse « Dieu dans tous ses états ». Vous voyez, je transposais le thème de l'année, mais c'est un petit peu ça, au fond. C'est comment, à partir des textes bibliques qui ne sont jamais ni un manifeste politique, ni un texte doctrinal ou une dissertation visant à lisser et à, comment dire, à présenter une idéologie ou un discours parfait sur Dieu, les textes bibliques sont toujours des textes un peu anarchiques. D'ailleurs, pour un esprit français, cartésien, épris de transparence, de cohérence, ça n'est pas toujours simple à admettre parce qu'on a envie de faire entrer non seulement la Bible dans des catégories, dans des nomenclatures, dans des typologies, mais on a envie d'y faire entrer Dieu lui aussi, Dieu lui-même. Et évidemment, heureusement, ces textes, par leur parcours sinueux, existentiel, narratif, sont les meilleurs antidotes justement à l'esprit de système, à l'esprit de systématisation. Alors, ça ne veut pas dire que l'intelligence humaine, lorsqu'elle a envie de systématiser un discours, n'est pas dans son droit, mais elle doit toujours à un moment confesser, évidemment, renoncer, puisque tel est le mot dont on parle beaucoup depuis une dizaine de jours dans l'Église catholique. Il y a une manière effectivement d'abdiquer aussi l'orgueil de la raison face au mystère infini de Dieu. Donc la foi dans tous ses états, c'est ça, ce sont des éclats de foi. Alors la dernière fois, nous en étions restés, alors c'était un sommet de la littérature biblique, le chapitre 3 de l'Épître aux Galates, vous vous souvenez du carré magique. La grâce, la foi, la justice, le salut. Alors la grâce, c'est la vie divine qui est donnée. La grâce donne la foi. La foi n'est pas une faculté personnelle comme ça qu'on pourrait cultiver. La foi nous vient de quelqu'un d'autre. La grâce donne la foi. La foi justifie, elle donne la justice. La justice ne vient pas de nos œuvres. Et la justice donne le salut. Mais évidemment, ce carré qui est très beau, qui est grandiose, est peut-être un peu sec, ce qu'on a envie de dire, et l'amour dans tout ça. La grâce, la foi, la justice, le salut. Alors évidemment, l'amour est forcément au centre, et peut-être que Paul en parle insuffisamment. C'est pour ça, ô bienheureuse Providence, que dans le canon des Écritures, nous avons aussi les épîtres de Jean, et puis toute la littérature joannique. Alors, avant qu'on lise ensemble ces textes sur l'amour, qui montrent qu'il y a un lien entre la foi et l'amour, que la vraie connaissance de Dieu, c'est-à-dire la foi et la connaissance de Dieu, n'est pas une connaissance d'abord intellectuelle, que c'est une connaissance amoureuse, et que connaître Dieu, c'est-à-dire croire en lui, c'est aimer. et non pas seulement l'aimer lui, mais aimer les autres. Et que c'est ça le test hein, pour Saint Jean, pour l'école johannique, le critère pour savoir si on a la foi ou si on ne l'a pas, c'est ça. Alors évidemment, on va voir, c'est particulièrement impressionnant la manière dont les auteurs johanniques nous font entrer dans ce mouvement, dans cette connaissance de l'amour. Alors juste une chose avant peut-être de te laisser la parole et puis qu'on lise ces textes. Bonsoir, bienvenue. C'était fermé en bas ? Non, c'était ouvert. Voilà, on a peut-être commencé tôt.
En fait, c'est Louis qui a ouvert l'église.
Oui, parce qu'il y a un concert dans l'église.
En bas, c'est fermé.
Ah, ben, ah c'est fermé en bas ?
Normalement, non, j'ai essayé. Mais...
Comment ça va ? Oui, là.
D'accord, bienvenue en tout cas.
Ah, c'est pour ça qu'il y a eu des gens qui ont du mal à rentrer, peut-être. C'est ça.
Voilà, alors quelques mots pour bien comprendre le contexte de Saint Jean. Vous avez peut-être des représentations sur ce qu'est la littérature johannique, le quatrième évangile, les épîtres de Jean. On sait en général que c'est le texte le plus tardif, l'ensemble de textes les plus tardifs dans le Nouveau Testament, fin du 1er siècle, donc les années 90. Et souvent, on a comme image le vieil apôtre Jean l'évangéliste, Jean l'apôtre, qui aurait vieilli sur l'île de Patmos et qui, dans la méditation un peu ressassante, vu son grand âge, parce qu'il aurait quand même près de 90 ans, transmettrait comme ça, au fil de la plume, ce qu'il contemple dans ses souvenirs, 50 ans ou 60 ans, même après l'expérience concrète qu'il a eue au sein de la communauté des disciples. Donc c'est un peu l'image qu'on a. Alors, je ne veux pas casser des rêves, bien sûr, mais il est évident que l'exégèse a fait de très grands progrès depuis le 19e siècle, et on considère aujourd'hui que ces textes, le quatrième évangile, les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse de Saint Jean, relèvent d'un même courant qu'on appelle l'école johannique, et dont l'histoire est assez mouvementée. Il s'agirait d'une communauté chrétienne au départ, un peu isolée, qui n'est pas proche des apôtres, qui est proche ou qui se réclame de l'autorité de celui qu'on appelle le disciple, que Jésus aimait, le disciple bien-aimé. Mais si précisément il est appelé le disciple bien-aimé, c'est que son autorité n'était, et sa crédibilité, et sa légitimité n'était peut-être pas aussi établie que cela. Donc il est probable que ce soit un homme extérieur à la communauté des douze. Ça n'est pas le Jean, frère de Jacques, que l'on trouve dans l'évangile. C'est un autre disciple. Certains ont même dit que c'était peut-être l'homme qui prête la salle du Cénacle, la salle du dernier repas, de la scène. Donc cette communauté se constitue autour de ce disciple que Jésus aimait apparemment. Jésus aimait d'autres personnes que les douze, évidemment, et il faut admettre ça, et c'est très beau. D'ailleurs, je pense que c'est très important pour nous qui sommes, dans la plupart des cas, j'imagine, des baptisés, de comprendre aussi que l'amour de Jésus va au-delà des frontières que lui-même a pu instituer ou des limites qu'il a données au groupe de ses disciples. Donc, autour de ce disciple se constitue une communauté qui est probablement très originale parce que, alors là, évidemment, je ne vous fais pas tout un cours, mais si on lit entre les lignes, on pense qu'elle est constituée de judéens, donc de juifs, de pleine obédience, mais aussi de disciples du Baptiste, donc des baptistes, qui probablement ont fait sécession par la suite, mais aussi des samaritains, d'où l'importance de l'évangile de la Samaritaine, où on voit des samaritains qui se convertissent à Jésus en grand nombre, ce sera l'évangile dans une semaine. Voilà, donc une communauté assez originale, assez hétéroclite, qui, après la destruction de Jérusalem en 70, est éparpillée, comme beaucoup de communautés chrétiennes et juives, et se retrouve en diaspora probablement autour d'Éphèse. Vous savez qu'on associe souvent l'école de Saint-Jean avec Éphèse, où on dit même que Marie aurait suivi l'apôtre Jean, etc. En tout cas, dans une certaine tradition, on fait mourir Marie à Éphèse. Et à Éphèse, je vais essayer d'être très bref, mais c'est très important pour comprendre ces textes. Ce qui attend cette communauté, donc de disciples, qui ne sont pas dans la grande église des apôtres, mais une église à elle toute seule, une communauté à elle toute seule, c'est une double déconvenue. C'est-à-dire que d'une part, ils s'aperçoivent que leurs frères juifs les excluent des synagogues. Donc on est après la destruction de Jérusalem, et eux qui pensaient trouver un appui dans les synagogues, puisque au fond le schisme n'avait pas été consommé, ils se voient exclus des synagogues. Donc il y a une espèce de ressentiment, et en tout cas de déception vis-à-vis du monde juif. Et si on lit l'évangile de Jean reflète ça. On parle toujours des juifs, souvent, sauf dans quelques cas où on voit des traces de dialogue judéo-chrétien, notamment avec Nicodème. Mais en général, les juifs sont représentés comme hostiles à l'annonce chrétienne. Quand Jean dit les juifs, c'est les institutions, c'est les autorités de Jérusalem, mais en tout cas, c'est le monde de la synagogue qui est hostile à l'annonce chrétienne. Et deuxième déception, deuxième déconvenue, c'est que cette communauté qui est assez métissée et qui se retrouve à Éphèse, en Syrie, enfin dans la Syrie de l'époque, est tentée, bien sûr, d'entrer en dialogue avec le monde païen. Et là aussi, deuxième déception, parce que le monde païen se montre finalement hermétique à l'annonce de l'Évangile. D'où la sévérité de l'évangile de Saint-Jean avec le monde. Vous savez, il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu, le monde ne connaît pas Dieu, le monde n'aime pas, le monde est incapable d'amour, etc. Et nous sommes encore tributaires et héritiers de cette vision. Quand on parle du monde, vous savez, c'est très ambigu. C'est à la fois le monde créé, que Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il y a une grande ambiguïté chez Saint-Jean. Il y a un amour, une bienveillance fondamentale pour le monde, mais le monde, c'est aussi toute cette puissance d'hostilité et de résistance à l'Évangile. Et c'est précisément la trace d'une expérience très existentielle, c'est que les disciples du disciple bien-aimé se sont retrouvés à la fois exclus par les juifs et exclus par les païens. Et quand on est exclu par tout le monde, ben on développe une mentalité, une psychologie, non pas paranoïaque, parce que les textes sont grandioses, hein. C'est pas du tout, ce sont vraiment des textes chrétiens, mais on développe une mentalité un peu identitaire. Et de fait, l'amour chez Saint Jean, nous allons le voir, c'est pas seulement l'amour universel qu'on trouve chez Saint Luc dans le Bon Samaritain, ou qu'on trouve dans le chapitre 25 de Matthieu, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. C'est un amour beaucoup plus identitaire, beaucoup plus enraciné dans une expérience mystique. Voilà. Alors, cette communauté elle-même va être très fragile, elle va être tiraillée, c'est nos textes, d'une certaine manière, les textes de ce jour s'en font le reflet. C'est-à-dire que non seulement, donc, ils ont eu des adversaires à l'extérieur, juifs et païens, mais à l'intérieur, notamment les baptistes, on fait schisme, et il y a eu des tentations gnostiques, c'est-à-dire des gens qui ont commencé à dire « Voilà, l'incarnation, très bien, mais au fond, le Verbe éternel, Jésus de Nazareth. » Vous voyez cette tendance à dissocier Jésus de Nazareth du Christ éternel, du Fils monogène, du Fils éternel, etc. Et c'est contre cela que ces textes ont été écrits. Donc c'est des textes qui réhabilitent l'incarnation et qui fondent l'amour dans le mystère de l'incarnation. Voilà. Bon, une introduction très longue.
Alors, ce qui va être rigolo, c'est qu'en fait, moi, je ne fais pas du tout la même lecture, parce que tu trouves ça très identitaire. Moi, je trouve qu'au contraire, ces textes sont parmi les plus libéraux qu'on puisse trouver.
Mais pas, identitaire, pas part... exclusif. Mais
justement, ouais. Je trouve que c'est absolument pas exclusif. Quand il dit « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu », je veux dire, ça veut dire que justement le païen, justement le juif qui fait preuve, mais en plus cet amour là, c'est pas c'est pas un amour mystique, c'est un amour qui s'incarne de donner un verre d'eau à celui qui a soif, c'est-à-dire son frère qui est là, qui est dans le besoin à ta porte. C'est ça le fruit d'amour. Donc celui quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est absolument immense, c'est-à-dire qu'aussi bien le juif de la synagogue, bien sûr, que le païen le plus profond, qui fait preuve d'un petit peu de solidarité généreuse et gratuite, il est christique, c'est-à-dire il incarne cet amour qui vient de Dieu. Et donc c'est ça qui est très étonnant, je trouve, dans ces textes, et absolument merveilleux, c'est qu'il y a la plus grande des plus grandes ouvertures, d'un plus grand libéralisme. Voilà, une sorte d'optimisme absolument incroyable pour l'homme. Et en particulier, on le dira si on lit ce texte, parce qu'il faudra quand même arriver à le lire, mais il y a une ouverture absolument incroyable dans ce qui nous est demandé, en fait, en particulier dans la première lettre de Jean. Il ne nous dit pas des choses extraordinaires, il dit « vous êtes déjà, finalement, dans né de Dieu, vous êtes déjà... » quelqu'un qui participait, l'Esprit de Dieu est déjà en vous, vous êtes déjà dans le camp de Dieu finalement. Et il n'y a pas marqué, soyez plus religieux, soyez plus parfait. J'ai l'impression au contraire, si tu veux, c'est que le mode de pensée de Jean est assez dialectique, c'est-à-dire que c'est dans ce sens que parfois on a pu le traiter de gnostique. Vous savez, les gnostiques, c'est ces sortes de courants philosophiques qui sont assez qui présentent les choses d'une manière très tranchée, mais qui le vivent probablement de manière tranchée eux, c'est-à-dire voilà, il y a le camp des deux, les gens dedans, les gens dehors, donc il y a deux voies, il y a les ténèbres extérieures, il y a la lumière de l'intérieur, et on retrouve cette dialectique dans des mouvements durs, en particulier tous les mouvements intégristes, traditionnalistes, étroits, sont dans cette dialectique où voilà, il y a le monde extérieur qui est un monde de ténèbres, de mort, de régression, et l'intérieur qui est un monde de vie, des sauvés, etc. Il ne faut surtout pas avoir de contact avec les gens de l'extérieur. Donc ça, c'est un peu la façon de vivre gnostique, mais il n'y a pas que dans l'Église chrétienne que ça existe. On en voit des traces dans toutes les religions, le judaïsme, l'islam... Il y en a chez les cathos, il y en a chez les protestants, largement. Il y en a dans les partis politiques, des gens qui disent « mais quelqu'un qui serait socialiste, c'est une horreur, il mérite vraiment d'être complètement stupide, mais comment on peut... » Ou écolo, ça marche mieux avec écologiste. Oui. Je ne crois pas que l'Évangile fonctionne comme ça. Dans un certain sens, la langue de Jean pourrait ressembler à ça, sauf que la frontière entre le dedans et le dehors, entre les ténèbres et la lumière, entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, elle traverse chacun. Et ça, à mon avis, c'est flagrant dans ces textes. Il dit « Celui qui est sauvé, il n'y a aucun péché. Aucun péché. Il est d'une pureté totale. Il est exactement la réalisation, l'incarnation du Fils de Dieu dans le monde. » Alors je veux dire, nous on se sent là-dessus, on dit, ça me ressemble moyennement. Et pourtant c'est de nous qui parlent, c'est des interlocuteurs qui parlent en disant, mais voilà les gars, vraiment, vous avez l'Esprit de Dieu, il n'y a rien à craindre. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il est parfait, il n'y a plus aucun péché, machin. Mais je veux dire, ils n'étaient pas stupides, c'est-à-dire qu'ils savaient très bien que en même temps il y a trace de ça à l'intérieur de nous, en même temps il n'y a pas, nous sommes en même temps coupés de ça. Et donc le fils de Dieu et fils du diable, c'est pas les bons qui sont à l'intérieur comme dans une secte gnostique, et puis les mauvais qui sont à l'extérieur, les horribles païens, ces salauds de juifs qui nous cassent les pieds, qui nous chassent de la synagogue. Je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est, au contraire, à l'intérieur de vous-même, il y a ces deux, quoi, ces deux dimensions. Et quand il dit « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu », eh bien il dit... Ces deux dimensions, elles existent aussi chez celui qui est extérieur et qui nous casse les pieds, finalement, comme à l'intérieur de vous-même. Et j'ai l'impression que ces textes, on peut les lire des deux façons. On peut les lire comme une fermeture, avec des mailles. Nous sommes le camp du bien et tout ce qui est à l'extérieur est foutu. On peut le lire comme ça, mais je ne crois pas que ce soit, si on regarde en détail les textes, on ne peut pas le lire comme ça. Ou bien au contraire, c'est d'une ouverture merveilleuse en disant, de toute façon, il y a du christique en vous, mais il y en a aussi chez l'autre qui ne fait pas partie du club, quoi. Et ça, on le voit particulièrement, je crois, dans la première lettre de Jean. C'est, à mon avis, on ne peut pas faire une autre lecture que ça. Avec Jean 14 que nous avons mis avec, c'est un peu plus délicat, parce que quand il y a marqué « Nul ne va au Père, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », on pourrait dire, bah, effectivement, ceux qui sont... qui ne cherchent pas le salut par Jésus-Christ, ben, ils sont en dehors du truc, quoi. Il n'y a aucune voie de salut en dehors de Jésus-Christ. Mais on peut le lire du coup à la lumière de la première lettre de Jean, on peut le lire autrement. On peut le lire... De toute façon, le chemin, la vérité et la vie, c'est le Christ. Donc, toute personne... Mais c'est ce que dit la première lettre de Jean. Toute personne qui est, d'une manière ou d'une autre... en cheminement, d'une manière ou d'une autre, un peu source de vie, eh bien, elle est forcément christique. Elle est forcément dans le camp du Christ.
Ah ben
oui. Et oui. Et donc, du coup, si vous voulez, on peut le lire aussi bien comme une fermeture que comme une ouverture. C'est un peu comme ces dessins, si vous voulez, où on peut le lire, on peut voir soit une sorcière, soit une jeune fille, si vous voulez. Donc, ces textes, un texte comme ça, disant « Hors de Jésus-Christ, pas de salut, pas de vie, pas de cheminement », on peut le lire comme une fermeture en disant « il n'y a que nous qui sommes bons ». On peut le lire comme une ouverture en disant « il y a du christique aussi chez toute personne qui est un peu vivante et qui aime ».
Alors, moi je suis tout à fait d'accord, parce que c'est pour ça que j'ai bien dit que ces textes sont profondément chrétiens. C'est ce qui les sauve, évidemment. Mais tu fais une lecture qui est spirituelle et qui est... 2000 ans après, tu as lu Ranner, etc. Et moi, je suis tout à fait d'accord que c'est comme ça qu'il faut lire. Et en plus, comme je suis catholique, je lis dans la tradition. C'est-à-dire que je ne me laisse pas fasciner par la lettre du texte. J'essaie de tenir compte de la norme d'interprétation herméneutique. Et effectivement, c'est comme ça qu'il faut lire ces textes. Mais de fait, le creuset historique peut expliquer les accents, les inflexions qui sont données à un moment particulier de l'histoire. Évidemment, quand je parle de texte identitaire face à l'hostilité juive ou païenne, ce n'est pas au sens seulement du repli communautariste. Ce n'est pas seulement identitaire au sens identitariste ou au sens pharisien. Précisément, c'est une communauté qui n'est pas pharisienne, puisqu'elle est composée, elle est éclectique, elle est composée de baptistes, de samaritains, de juifs, de païens convertis, etc. Donc c'est une communauté qui déjà vit en elle-même, je dis la communauté joannique pour celui qui vient de nous rejoindre, qui vit en elle-même déjà quelque chose de l'universalité du salut, déjà en son sein. Mais lorsque je dis identitaire, mais je sais que le mot est effectivement très, très ambigu en français, il faudrait dire identitaire et identitariste, parce que tout ce qui est de l'ordre de l'isme, comme le communautarisme, est évidemment plus suspect. Lorsque je dis identitaire, c'est au sens de l'appartenance, c'est-à-dire que les textes johanniques mettent quand même l'accent sur l'idée que nous sommes au Christ, que nous lui appartenons. Et que l'amour, la caritas, l'agapé, et on sait à quel point Saint Jean fait tourner sa théologie autour de ce mot, qui apparaît, je crois, si on prend le quatrième évangile et les épîtres, en tout cas la première épître, je crois qu'il y a à peu près 110 occurrences du mot agapé, ce qui est une sorte de détournement, de piratage du mot, où le mot n'appartenait pas au grec classique. Donc il y a une volonté de prendre un mot qui existait, bien sûr. L'agapé, c'est la satisfaction que l'on éprouve dans les relations humaines, mais ici, pour le distinguer des autres formes d'amour. Et donc, la littérature johannique, lorsqu'elle parle de l'agapé, n'en fait pas une philanthropie quand même universelle immédiatement. C'est-à-dire que cet agapé n'est compréhensible que si on la réfère à l'amour du Père pour le Fils. Mais c'est ce qu'on va voir dans les textes, d'ailleurs, qui sont profondément dialectiques, effectivement. Et ils sont chrétiens, et en ce sens que la meilleure lecture qu'on puisse en faire, c'est de découvrir que cette appartenance au Christ n'est pas une appartenance exclusive. Toute élection, toute distinction dans la révélation chrétienne est toujours la reconnaissance d'un service et donc est toujours, d'une certaine manière, responsabilisation. Il n'y a pas d'appartenance au Christ sans découvrir que l'autre aussi est porteur de cette identité. Et de fait, les lectures sectaires qui ont été faites de Saint Jean, et on voit bien, tu as raison de le dire, à quel point Saint Jean prête le flanc à ces lectures sectaires, parce que lorsqu'on entend « Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous le sommes », on pourrait penser que c'est nous, les baptisés, qui sommes enfants de Dieu, et nous prévaloir de cet enfantement, et toiser les autres cultures, les autres religions, à l'aune de cette appartenance. Alors évidemment, de ce point de vue-là, ce serait une catastrophe.
Mais même littéralement, on ne peut pas le dire.
Et même littéralement, on ne peut pas
le dire.
Parce
qu'on ne parle pas de... ce nous-là, ce n'est pas ceux qui sont baptisés, ce n'est pas dit une seconde.
Absolument.
Et puis, ce chapitre se termine, il s'agit d'aimer son frère, et donc ça, cet amour du frère, on le retrouve aussi bien chez les païens, et chez les grecs, et chez les juifs. Donc, à mon avis, il construit justement un affaiblissement d'une bunkérisation finalement de cette petite communauté en disant, écoutez, les choses sont plus compliquées justement, les choses sont plus compliquées et cette bienveillance dont nous sommes au bénéfice, eh bien, ayez-la pour les gens de l'extérieur, pour votre voisin, et il construit, à mon avis, une équivalence entre confesser le Christ de sa bouche et l'acte généreux pour son prochain. Et cet acte généreux, on le sait très bien, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas plus idiots que nous, ils savaient très bien que les chrétiens n'ont pas le monopole du caritatif. Je veux dire qu'il y a des vrais actes de générosité pour son prochain. Et donc là, je crois même qu'il déconstruit, si vous voulez, cet orgueil d'une petite communauté de justes. Quand il dit, écoutez, il ne suffit pas de la bouche de dire, mais ça on l'a dans les évangiles aussi, Seigneur, Seigneur. Il ne suffit pas de dire « j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu ». Si on n'aime pas son prochain, ben en fait on est un menteur et donc cette confession de foi n'a aucun sens. Et donc à mon avis, au contraire, il casse ces schémas d'une église, d'une église identitaire, hyper fière de ses dogmes, de sa confession de foi, de son « j'appartiens au Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu ». Il part de ça et il leur dit « ça marche autrement, cette filiation, c'est une filiation du cœur, c'est une irrigation de l'être, c'est facile pour savoir qui, alors c'est même pas qui en fait, et c'est là que c'est assez fin, quel esprit vient de Dieu, quel esprit vient du diable en vous, il faut regarder si ça produit de l'amour ou pas de l'amour. Mais ça, donc du coup, quand on regarde son voisin, mais on sait bien, on a des voisins qui sont athées comme des pierres, et qui sont capables, je ne sais pas, d'aller de rentrer la poubelle alors qu'ils ne sont pas chargés de le faire, par exemple. Ben, on se dit, ben, voilà, là, il y a un acte qui prouve qu'il est né de Dieu, quoi, si je puis dire, parce qu'il a rentré la poubelle. Et quelque part, en observant son frère, on se dit, mais oui, en fait, c'est pas parce que je confesse Jésus-Christ, je confesse Dieu, en quoi est-ce que c'est quelque chose qui irrigue en moi un véritable cheminement, pour reprendre Jean 14, vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la vie, qui est de l'ordre de la vie véritable. Et finalement, quand on prend ce critère pour savoir si l'esprit qui est dans quelqu'un et en nous est de Dieu ou du diable, on est bien obligé de reconnaître que cette frontière, elle traverse chacun et que mon voisin qui ne fait pas partie du club, eh bien, il est quand même né de Dieu. Et on a mis ça casse complètement le phénomène identitaire. Mais peut-être justement en réaction d'une église qui affaiblit, coincée trouve son salut et un formidable élan, plutôt que de tourner à la petite secte, entre dans une vision beaucoup plus généreuse finalement, et un vrai sentiment de fraternité avec ceux qui ne sont pas dans leur petite secte. Mais je ne sais pas, hein.
Tout à fait, c'est pleinement catholique. Alors,
Je ne sais pas si c'est catholique, parce que là, il n'est pas question de baptême, il n'est pas question d'adopter le dogme, il n'est pas question de... Justement, ça décentre sur une église sans limite, sans frontières. Il n'y a pas des dedans et des dehors, là-dedans.
Bien sûr, mais c'est le sens du mot catholique, c'est pour ça que je joue
ben, catholique au sens de...
Pas au sens identitaire,
pas au sens identitaire, au sens voilà, de l'église avec un E majuscule où tous font partie de l'église, y compris les non-baptisés.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'on lit et qu'est-ce qu'on lit? Parce qu'il y a beaucoup à lire. Est-ce qu'on s'en tient aux épîtres ou est-ce qu'on...
Peut-être qu'on peut lire le début de Jean 14 quand même.
Jean 14, oui.
Jusqu'à où? Jusqu'à...
Anne, vous voulez? Oui, allons-y. Donc, de l'évangile de Jean au chapitre 14, c'est le premier extrait. Donc, c'est ce qu'on appelle le discours sacerdotal, la grande prière sacerdotale.
Non, c'est 17, la prière sacerdotale.
Mais là, on est toujours dans le... Il me semble.
C'est le discours sacerdotal.
Oui, après la scène. Enfin, à la fin.
Nous, on dit le...
D'accord.
Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela vous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Ça suffit peut-être, non ?
Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu aies à te manifester à nous, et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, n'observe pas mes paroles. Or cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Désormais, je ne m'en tiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Certes, il n'a en moi aucune prise. Mais de la sorte, le monde saura que j'aime mon Père et que j'agis conformément à ce que le Père m'a prescrit. Levez-vous, partons d'ici.
C'est tellement beau que...
Même le silence est encore du Saint-Jean après.
Oui, le silence joannique. Alors, bien sûr, pour nous aider à approfondir ce que peut être la foi chrétienne et la foi d'un disciple dans le quatrième évangile, ce chapitre est particulièrement éloquent, effectivement, parce que si on lit un petit peu entre les lignes, et puis aussi à la lumière de ce que j'ai pu vous dire en introduction, il y avait une ligne d'interprétation de l'identité de Jésus qui faisait son chemin dans la communauté joannique, et cette ligne ensuite est devenue gnostique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je le disais, on séparait le Jésus qui avait vécu parmi les hommes, et puis le Christ, évidemment, le Fils unique, qui, dans la communauté joannique, est vu comme préexistant, c'est-à-dire que non seulement par l'unicité de sa relation avec le Père, il va au-delà de la mort, c'est la résurrection, parce que sa relation de fils monogène avec le Père, de fils unique avec le Père, est tellement unique que ça lui fait dépasser les limites de la finitude et de la mortalité. Mais en amont, il existe de tout temps et il y a une identification totale chez Saint Jean. Alors pour nous, ça paraît évident parce que on connaît les conciles christologiques de Nicée, de Chalcédoine, sur la double nature de Jésus, du Christ, mais c'est chez Saint Jean que l'on trouve évidemment les premières traces de cette spéculation sur une identité éternelle du Christ. Et donc, cette assimilation totale et définitive entre le Fils, le Verbe, pensez au prologue de Saint Jean, et Jésus. Or, des doutes apparaissent et des contestations apparaissent au sein de cette communauté. Contestations sur la médiation salvifique de Jésus, c'est-à-dire sa médiation de salut, et contestation aussi sur son identité. Donc vous voyez ici qu'il y a un rappel très fort de la réalité de l'incarnation. Et que, effectivement, tous ceux qui disaient que la foi en Jésus, la foi de la Samaritaine par exemple, c'est-à-dire tous ceux qui ont croisé la route de Jésus avant sa Pâque, avant sa mort et sa résurrection, avant sa passion, que tous ceux-là ont déjà été sauvés par le simple contact avec Jésus, par la rencontre avec Jésus. Évidemment, c'était une ligne d'interprétation qui apparaissait relativement basse à ceux qui voient dans la croix de Jésus l'accomplissement de son humanité et donc qui veulent absolument tenir l'incarnation jusqu'au bout, et pas seulement, c'est comme si on dissociait Noël et Pâques, si vous voulez, comme si la simple incarnation de Jésus suffisait à sauver le monde, ce qui est quelque chose qu'on entend aujourd'hui. Et donc il y a dans la communauté joannique une tension sur la manière dont on doit interpréter la manière dont Jésus sauve. Alors, je sais que je suis un petit peu compliqué, mais
tu le vois où là ? Oui. Tu le vois où dans ce texte ?
Alors, précisément, lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais », il y avait probablement une tendance à minimiser la vie éthique, parce que connaître Dieu, se savoir sauvé par lui, connaître Jésus, pour un certain nombre de disciples, était considéré comme suffisant. C'était une ligne peut-être un peu très libérale ou peut-être un peu laxiste. On était libéré de la Torah juive, et à partir du moment où on aimait Dieu, où on le connaissait, alors sans tomber bien sûr dans le libertinage, mais en tout cas, il y avait une minimisation de la vie éthique. Et on voit ici qu'il y a un lien qui est fait quand même par le rédacteur de l'Évangile entre la foi et les œuvres de la foi. « Celui qui croit en moi, c'est à peu près au milieu du passage, fera lui aussi les œuvres que je fais. »
Il en fera même de plus grandes.
Il en fera même de plus grandes.
Oui, mais là, il y a une relativisation quand même de Jésus comme par rapport aux œuvres que nous pouvons faire. Donc c'est vrai que dans un certain sens, ça veut dire qu'il y a du christique. Il peut y avoir du christique dans l'homme, dans le disciple, dans l'homme, même dans l'humain, je dirais, même non-disciple. Qui peut dépasser même l'œuvre du Christ, quoi. Donc c'est vrai que dans un sens, ça va loin. Au contraire, j'allais dire, dans un Christ très très humain, avec une des dimensions limitées à la longueur de ses bras, j'allais dire. Et puis, non, tu crois pas ? Dans un sens, vous voyez, Jean est toujours assez compliqué, parce que si vous voulez, c'est-à-dire que c'est à la fois par exemple, pour cette divinité du Christ ressuscité, oui. C'est à la fois celui qui fait manger des poissons au Christ en disant vraiment « touche la chair, mets le doigt dans le trou qui est dans les mains », etc. Et en même temps, c'est celui où le Christ ressuscité est le plus évaporé. Vous voyez, il passe à travers les murs, ils ne le reconnaissent pas, etc. Et donc, ça, je vais dire, au lieu de simplifier le modèle, il le complexifie. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a ce Christ, vous voyez, qui fait tout le boulot du salut, dans un sens. Il y a marqué, vous, votre boulot, au premier verset, c'est « ne soyez pas tremblotants, quoi, hein, ne soyez pas troublés, ne soyez pas secoués et agités. Croyez en Dieu », c'est-à-dire que ce n'est même pas la croyance. Hein, c'est vrai que ce mot est trompeur en français, c'est « ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi, finalement ». Donc ça, c'est le seul boulot qu'il y a à faire, hein. Ça suffit. Et le reste, c'est le Christ qui fait tout le boulot. C'est-à-dire, c'est lui qui va préparer une place là-haut. Comment ? On ne le sait pas. Mais enfin, c'est une œuvre en dehors de portée de tout humain. C'est invraisemblable. Aller préparer, construire quelque part au ciel une place pour chacun de nous, c'est déjà pas évident. On n'imagine absolument pas. Quoi. Ensuite, il redescend. Il vient nous chercher pour nous donner notre place. Mais donc, finalement, notre seul boulot, c'est dit, écoutez, vous ne faites pas trop de soucis, quoi, finalement. Juste ayez un peu confiance, et ça suffit, quoi. Et ça, c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lâcher-prise, une sorte d'insouci à laquelle nous sommes appelés. Dit, écoutez, de toute façon, c'est moi qui fais tout le job. Donc, vous inquiétez pas de ça, quoi.
C'est la foi.
Quoi ? C'est la foi. C'est la confiance. C'est la foi dans le sens d'une simple confiance, hein, en disant, ben, écoutez, de toute façon, c'est moi qui ferai le boulot. Donc, lâcher-prise, quoi. Mais quelque part, je trouve que c'est là qu'il y a quelque chose de passionnant, parce que dans un certain sens, pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, parfois le chrétien, mais peut-être un peu moins que les juifs ou les musulmans, pour parler des copains, on est trop préoccupé de notre petit salut, vous voyez, en disant, bon, est-ce que je vais être sauvé? Est-ce que je confesse assez bien? Est-ce que je suis baptisé? Il y avait assez de gouttes d'eau? Est-ce que la confession de foi était bien trinitaire? Est-ce que je crois assez bien? Est-ce qu'on me dit qu'il faut croire à ça et qu'on sera sauvé? Est-ce que j'y crois assez? Ou est-ce que j'y crois à moitié? Ou j'y crois à 80%? Donc est-ce que quelque part, machin? Et puis si je j'aide un pauvre, ah ben le Seigneur va être un peu content, je vais gagner 3 bons points, ah oui là j'ai fait quelque chose, ah oui on reconnaît l'arbre à ses fruits, donc j'ai fait preuve un peu de générosité, peut-être que ça me gagne des bons points, là j'ai été un peu salaud, mince, alors que je perds peut-être des bons points. Et donc, quelque part, Jésus dit non, ça ne marche absolument pas comme ça, finalement. Bon, faites confiance. Ce n'est pas la question. C'est moi qui fais le boulot. Vous, bah, écoutez, vous agitez plus. C'est pas le vrai. Juste faites confiance, quoi. Et la foi, moi, je la vois là, finalement. Ensuite, dans ce lâcher-prise, dans un sens, si ça, c'est le critère, de dire, bah, écoutez, faites confiance. Vous ne préoccupez pas de votre salut. Ce n'est pas la question. C'est moi qui fais le boulot. Bah, l'athée qui est à l'extérieur, qui fait essayer de se faire un peu de bien, est-ce que du coup, on ne se dit pas, mais finalement, lui, c'est lui qui tremblote pas devant l'idée du salut. de se dire mince, est-ce que je suis sauvé, pas sauvé, à retourner toujours ça. Cet égoïsme finalement, de se dire est-ce que je suis sauvé, pas sauvé, c'est de l'égoïsme en fait. C'est pas de la foi. C'est de la peur, mais c'est de l'égoïsme même. On pense à soi finalement. Alors si on va aider le pauvre pour faire son salut, mais en fait le pauvre on le prend comme une brosse à reluire pour se cirer les pompes finalement. On n'aide pas le pauvre pour, parce qu'il est pauvre et qu'on a de la générosité. On n'est plus sous la grâce, on est dans un calcul mesquin en se disant je me fais du bien pour mon avenir éternel en faisant du bien à un pauvre. Mais en fait le pauvre c'est un outil au service de ma gloire finalement, de ma gloire éternelle. Et donc là quelque part il y a quelque chose qui nie ça, qui déconstruit peut-être dans un certain sens, de dire ben, écoutez, l'œuvre que vous avez à faire c'est de ne pas vous inquiéter. C'est quand même assez sympa, je trouve. C'est assez sympa. Et pour le reste, eh bien, cette œuvre prodigieuse que je fais en sauvant l'humanité, vous pourrez même faire des œuvres plus grandes. Alors, je veux dire, on en reste pantois, parce qu'on se dit, mais ah, après ce qu'il nous dit qu'il fait, au premier verset, il nous promet qu'on fera des œuvres plus grandes. Je veux dire, c'est vrai que là, tout d'un coup, la bouche nous en tombe, non ? Enfin, je ne sais pas, je veux dire, comment ? Quoi ? C'est l'Esprit Saint, mais quelle œuvre plus grande pourrait-on imaginer que de monter au ciel, construire des milliers, des centaines de milliers de demeures pour tous, redescendre, aller chercher les gens et les faire monter au ciel. Je veux dire, comme œuvre, c'est par rapport à l'œuvre d'Achille, c'est encore autre chose. Mais je suis d'accord. Exactement. Mais comment nous, on fera des œuvres encore plus grandes ? C'est vrai que ça nous fait quand même rêver, si vous voulez.
Parce qu'on n'a pas à avoir de jugement sur soi, justement, au lieu de mettre de l'argent à la banque, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez une image, on ne doit pas penser à ça. On doit agir en innocence, un peu.
Alors ?
Oui.
Cette lecture spirituelle, moi je suis tout à fait évidemment d'accord. Simplement, moi j'ai toujours peur, mais là c'est pour être un peu l'avocat du diable, mais j'ai toujours peur qu'on réduise les tensions du texte. Parce qu'au fond, c'est toute la question. Tu dis il y a de l'être christique chez tous. Et effectivement, le texte dit « nous » et « vous ». Et on peut dire, au fond, cette dramatisation du « nous » et du « vous », elle n'existe pas, puisqu'au fond, tout le monde, c'est « nous ». C'est ce que dira Rahner, et au fond, ceux qui n'ont pas accès à la révélation chrétienne, et qui sont des hommes de bonne volonté, et qui aident et qui ramassent les poubelles, ou qui font en sorte que le local sente bon le lendemain, c'est ce que Rahner appelle les chrétiens anonymes, parce que, au fond, ils sont chrétiens, ils ont le baptême de l'esprit, et ils n'ont pas besoin d'une appartenance à une communauté, etc. Et vous savez que cette expression de chrétien anonyme, que moi je trouve très intéressante, je me sens assez proche de la théologie de Karl Rahner, c'est une expression qui pose quand même problème, parce que... au fond, c'est une expression qui est proférable entre nous. Et alors là, pour le coup, c'est un « nous » qui est relativement communautaire. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, dire à un athée qu'il est chrétien anonyme, alors si on prend le temps de discuter, et s'il dit « ah, mais si chrétien, ça veut dire ça », bon, et s'il est un peu ouvert, il dira qu'il l'admet. Mais c'est pas pour autant qu'il priera le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas pour autant qu'il se reconnaîtra dans l'héritage de la Nouvelle Alliance, etc. Mais, à la limite, si on présente les choses de manière sympa, s'il n'est pas trop sectaire et trop borné, il l'acceptera. Mais c'est quand même problématique, parce que beaucoup de gens ne l'accepteront pas. Et donc, malgré tout, il y a une tension dans le texte qu'il ne faut pas trop vite lifter ou raboter, parce qu'il y a quand même un « nous » et un « vous ». De même qu'il y a une tension entre... Dieu a tant aimé le monde, cette espèce de bienveillance de Dieu vis-à-vis du monde, et c'est dans Saint Jean qu'il a envoyé son Fils unique, etc. Et il y a le monde qui ne connaît pas Dieu, il y a le monde qui n'accueille pas le Verbe de Dieu, donc il y a le monde qui est hostile, qui est une puissance de refus et d'adversité et même d'iniquité. Donc il y a cette tension-là aussi, et je pense même qu'il y a une tension dans la manière dont Jésus se situe, parce qu'à un moment, le rédacteur johannique dit quand même « il aima les siens jusqu'au bout ». Et moi, ça me gêne toujours. Pourquoi les siens? J'ai envie de dire « les siens, c'est tout le monde ». Je suis comme toi, je me fais le souci et je porte la responsabilité, comme tout chrétien, comme tout baptisé, la responsabilité de tous.
Mais ne dis pas le contraire, les siens, c'est...
Bien sûr, mais les siens, c'est quand même... Et on voit bien que Saint Jean, quand même... envoie des indices qui vont dans le sens, il y a quand même un noyau dur de personnes un peu plus appartenant, alors que cette appartenance soit une appartenance justement de renoncement à un pouvoir et que ce soit une appartenance de responsabilité pour les autres et de service du monde et du salut du monde et de la croissance du royaume dans le monde, moi je suis entièrement d'accord, mais il y a quand même cette tension, et à mon avis justement, et en fait, nos interprétations reflètent bien la richesse du texte, parce que le texte dit tout ça. Hein. L'interprétation qui fait qu'on est un petit peu mal à l'aise sur la lecture de ces textes, c'est, je pense, dans la manière dont on peut comprendre la comparaison avec Jésus. Vous savez, Jésus dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Quelle valeur on donne au « comme » ? C'est ça. C'est sur cette analogie-là. Soit on dit que ce « comme », finalement, c'est un « comme » rhétorique, c'est une analogie, bon, l'analogie, elle est en tous, et puis, finalement, c'est l'imitation de Jésus-Christ, on imite. Voilà. Soit le « comme », c'est quand même un enracinement dans une relation unique, charnelle, parce que de fait, la foi chez Saint Jean passe par l'amour. On a vu avec Saint Paul la dernière fois que la foi, finalement, on ne savait jamais si on l'avait ou pas. Et d'une certaine manière, tu as tout à fait raison, se poser la question de savoir si on est sauvé ou pas, ou si on a la bonne foi ou pas, c'est une question un peu égoïste, effectivement. Mais la question de l'amour, Saint Jean, pense quand même que c'est un test. Il dit « si vous êtes dans l'amour, vous demeurez en Dieu. Et si vous demeurez en Dieu, vous êtes dans l'amour. » Donc on a quand même des critères. Alors certes, on n'aime jamais assez, on n'aime jamais totalement, mais il y a quelque chose dans cet amour, si on ne veut pas en faire une abstraction qui serait une sorte d'idée dans l'histoire, une illusion ou un rêve de l'homme, mais si on veut faire de l'amour une réalité quand même mesurable et expérimentable, et si c'est la mesure de notre foi et du fait qu'on demeure en Dieu et que Dieu demeure en nous, il y a quand même dans cet amour quelque chose qui n'est pas tout de suite universel. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est-à-dire qu'il est, oui.
Qui est de l'ordre d'une appartenance à quelqu'un qui vit en moi, qui est Jésus de Nazareth, qui n'est pas tout de suite l'idée de Jésus ou le Christ cosmique ou... Et ce « comme » là, comment tu le comprends ?« Comme je vous ai aimé ».
Moi, je suis d'accord de dire que c'est à ce moment-là, c'est un ensemencement, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... C'est comme la parabole du semeur. C'est-à-dire c'est quelque chose dont on se laisse... ensemencer, oui, par cet amour qui peut nous permettre de... Justement, cette œuvre du Christ de... nous préparer une place et de nous y faire monter. Donc je dirais que moi quand même dans cette d'abord entre le monde, moi je vois pas de paradoxe dans l'histoire du monde. Il y a Dieu a tant aimé le monde, il aime le monde et Dieu s'incarne sa parole en Christ dans le monde parce qu'il aime le monde et parce que le monde a besoin d'aide, a besoin de salut, a besoin de guérison, a besoin de vie. Donc je vois pas trop de tension. Par contre, comme on le voit plus loin dans Jean 15, on est à la fois dans le monde et hors du monde. On est hors du monde parce qu'en Christ, on n'est plus au ras des pâquerettes, c'est-à-dire du biologique, du vivant. On est dans une autre dimension qui est capable de projet, quoi, finalement. Alors, ce qui est mauvais, par contre, c'est être du monde, c'est-à-dire avoir comme projet et perspective de vivre simplement dans l'horizontale. Là, il y a un vrai problème. Mais ce n'est pas une critique de l'horizontalité non plus. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, il faut agir dans le monde. Vous êtes du monde aussi. Le problème, c'est si on nie cette dimension de verticalité, là, il y a un problème. C'est-à-dire que si, au lieu de regarder, si au lieu d'avoir... Bon, on est fait pour avoir les pieds sur terre, la tête au ciel et les mains au milieu pour agir. Si on nie la dimension de verticalité et qu'on est que dans le au ras des pâquerettes, là, il y a un vrai problème. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des paradoxes là-dedans, le monde, pas le monde. Non, c'est être. Mais ça, on le voit bien chez Paul aussi. C'est commun à Paul et à Jean, ça, je pense. Être du monde, c'est se laisser tirer vers le bas dans une négation de la verticalité. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de proclamer Jésus-Christ dans le monde ou de le confesser. C'est une autre question. Je crois que d'emblée, si vous voulez, ces textes, il dit la limite entre les enfants de Dieu et les pas-enfants de Dieu, ce n'est pas des individus qui le sont, des individus qui ne le sont pas. Cette frontière enfant de Dieu, enfant du diable, elle nous traverse tous. Je crois qu'il y a déjà ça. Et donc ça casse le bunker déjà. Ça casse le bunker et ça dit l'œuvre, de toute façon l'enjeu, il y a de l'enfant de Dieu en vous, donc ça c'est déjà sauvé, point c'est tout, donc circuler, la question du salut ne se pose pas. Par contre, on sent bien que nous sommes traversés par cette frontière entre la vie et la mort, entre Dieu et le diable. Et à partir du moment où on sent ça, eh bien, on peut se dire, mais comment arriver à avancer, quoi, finalement ? Eh bien, c'est là, je crois, qu'on peut s'ouvrir au Christ, justement, vous voyez. Mais il n'y a pas l'enjeu de salut, pas salut. C'est simplement parce que c'est plus joyeux et plus vrai de vivre cette vie véritable, point. C'est-à-dire parce que c'est parce que c'est plus beau et plus vrai, quoi. C'est plus vivant et que la vie c'est ça, et puis que ça fait du coup il y a du plus vivant autour de nous grâce à nous, et c'est ces œuvres là finalement christiques qui du coup nous sont données de produire, et il y a là quelque chose de prodigieusement devant qui le Jean s'émerveille finalement dans une louange communicative, je dirais. Et je crois que oui, du coup il nous dit, et c'est là que peut-être apparaît le « nous » dans la première lettre de Jean, c'est quand il dit « mais à la différence des autres qui sont aussi enfants de Dieu dans un sens, nous pouvons confesser Jésus-Christ avec la bouche, quoi. Le Jésus, pas simplement le christique qu'il y a en chacun, quoi, en se disant ben, finalement le bouddhiste, le chrétien, c'est bien pareil. Je dirais c'est bien pareil dans le sens que tous ont une dignité et tous sont reconnus par Dieu comme son enfant. » Ça, c'est clair. Tous sont capables de générosité, d'actes humains. Ça, c'est clair. Mais ça n'empêche que nous avons ce trésor de connaître Jésus-Christ, en qui il y a une manifestation extraordinaire de cette de Dieu, en fait. Et je dirais que... Mais ça, je sais que c'est très débattu parmi les théologiens. C'est, pour moi, plus une différence de degré. C'est-à-dire que, normalement, nous... Si je puis dire, on est entre 10 et 90% de christiques. Donc il reste tous l'enfant du diable en chacun de nous, c'est clair.
C'est pas mal, parce que...
Mais en Jésus-Christ, non. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En Jésus de Nazareth, là, c'est plus le Christ, c'est Jésus de Nazareth. Avec ses sandales, et puis sa robe et tout, quoi. Celui qui avait faim, qui se met en colère et tout, quoi. Celui qui... Il vous dit, ne tremblez pas comme une feuille, Jean 14, mais... Celui qui tremble le plus tout au long de l'évangile, c'est quand même Jésus. Hein. Il tremble à Gethsémané, il tremble quand Lazare est mort et qu'il voit Marie pleurer, il tremble quand il découvre qu'il est trahi par Judas, donc je veux dire, il tremble comme une feuille. Donc même ce Jésus de Nazareth, qui n'applique pas tout à fait le commandement qu'il nous donne de faire, déjà ça relativise, je veux dire, on n'est pas à l'usine non plus, puisque déjà Jésus n'y arrive pas, vous voyez, donc lui, il est, je le pense, si vous voulez, à 100% enfant de Dieu et 0% enfant du diable. C'est donc une différence de degré, sauf que, bon, de passer à 90 à 91%, c'est déjà sympa, Ça peut se faire grâce à l'œuvre de Dieu en nous, bon, je crois, oui. C'est pas par notre propre effort qu'on peut y arriver, mais notre propre sagesse, bon, ça participe un peu, bon, d'accord. Mais de passer de 99 à 99,5, 99,8, mais pour arriver à 100%, il y a un saut. C'est plus seulement un niveau de changement de degré. C'est un saut qualitatif invraisemblable. Je pense que c'est ça, je crois, qui fait la différence entre Jésus de Nazareth et puis nous. Mais sinon, dans le sens... l'enfant de Dieu en Jésus de Nazareth, il n'est pas différent de l'enfant de Dieu qui est en nous, si vous voulez. Mm-hmm. Bon, mais je ne sais pas ensuite comment exprimer les choses. C'est un peu des images, des paraboles de dire comme ça. Mais...
Non, mais j'aime bien l'image des 10%, des 90%, parce que c'est vrai, quelquefois, il y a des gens qui sont baptisés, mais qui ensuite n'ont pas eu l'occasion dans leur histoire de faire éclore, de faire germer ça, mais il y a eu quand même une rencontre qui s'est faite. Et alors, est-ce qu'on est dans le 10%? Pas forcément, parce que après, il y a aussi toutes les autres formes de baptême, parce qu'il n'y a pas que le geste d'eau, bien sûr, mais c'est intéressant de voir qu'on se situe tous finalement sur cette échelle. Alors, en t'écoutant, je repensais à une chose quand même à propos du monde, et on l'avait évoqué très rapidement la dernière fois à propos du chapitre 3 des Galates, c'est que le mot monde, cosmos, chez saint Jean, rejoint toute l'ambivalence du mot chair chez saint Paul. Parce que la chair chez saint Paul, on l'avait vu, c'est la condition humaine dans sa fragilité, dans sa faillibilité. Et chez saint Paul, dans certains textes, il y a quand même une tendance à voir dans la chair, et ce sera pire chez saint Augustin, une force d'inertie qui incline au péché. Donc
non,
la chair,
chose,
c'est la chair de péché qui conduit presque ipso facto au péché. Voilà. Ce qui fait que le mot chair a été ensuite, évidemment, vu de manière pessimiste, sombre, obscure, etc. Et le monde chez saint Jean, c'est un peu ça aussi. De soi, c'est une notion qui pourrait être neutre, c'est le monde créé. Mais de fait, il est quand même, et on va le voir là tout de suite dans le premier verset du chapitre 3 de l'épître de Jean, il est quand même porteur d'une inertie qui l'incline à s'opposer à la venue du royaume, à l'avènement de Jésus. C'est fascinant, on va le lire ce texte, mais le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. C'est vrai qu'il y a une tendance dans la vie mondaine à être réfractaire, à comprendre un acte. Et alors là, moi, je le dis parce que la pensée me traverse l'esprit, mais j'évoquais tout à l'heure la renonciation du pape. Ce qui est frappant, c'est que dans la cacophonie médiatique ou le concert d'ailleurs d'éloges ou de questionnements, finalement on interprète avec des mots qui sont les mots du monde. Alors soit on va dire que c'est moderne, soit on va dire que ça se fait pas parce que un père ça ne démissionne pas, soit on va cultiver l'idolâtrie doloriste parce qu'on ne descend pas de la croix, soit au contraire on va trouver que c'est formidable parce que on dissocie enfin la fonction, le double corps du pape, etc. Et on voit qu'on fonctionne finalement à travers des catégories qui sont mondaines, et personne ne se demande si l'acte est chrétien, tout simplement. Et pour moi, il l'est. C'est un acte qui est chrétien, qui est modeste, qui est une forme de manière de renoncer. C'est pas facile de renoncer à un pouvoir que le destin vous a donné. Et d'une certaine manière, il y a quelque chose. Alors évidemment, on ne peut jamais percer le secret des cœurs, et on voit bien à quel point le monde peut récupérer une interprétation. Mais au fond, c'est quand même la question fondamentale, est-ce que c'est un acte de disciple ou pas? Alors,
En tout cas, s'il y a un acte qui n'est pas un acte de disciple, c'est de juger son frère, de dire comment ce type, dans la prière, dans la réflexion, il décide d'infléchir sa trajectoire, et qui serions-nous, surtout comme chrétiens, pétard de bois, pour aller dire ce bonhomme qui met sa foi dans son acte? Eh ben, il aurait dû faire autrement. Je veux dire, c'est quand même arrogant. Je veux dire, en tout cas, s'il y a un truc qu'on doit respecter,
ouais,
c'est son, dit, bah, c'est son, c'est, voilà, il a choisi ça, bah, je veux dire, c'est parfait, je veux dire, c'est...
Mais là, on a un bon exemple, parce que le monde, tout de suite, le monde et nous-mêmes, on se dit, mais alors, la Curie, et ils ont calculé, et puis les stratégies de communication, et puis et les conseillers, et le coaching, et le... Bon, voilà, parce que le monde fonctionne comme ça, et de fait, tu as raison de dire, le monde n'est pas mauvais. Dieu a aimé le monde, il a aimé ce monde, il l'a fait. Mais ce monde, livré à lui-même et à son horizontalité, effectivement, n'arrive pas à comprendre, de même que la croix du Christ non plus, comment la comprendre, enfin, comment comprendre qui était Jésus d'ailleurs. C'est pour ça que Jésus est incompréhensible sans la première alliance, parce qu'ils avaient des schémas et des représentations qui leur permettaient de voir dans le passage de cet homme et l'éblouissement qu'il a suscité auprès de ceux qui l'ont rencontré, de voir la royauté davidique ou la messianité ou le serviteur souffrant. Voilà des images qui résistent à la logique du monde. Et donc, effectivement, on ne peut jamais dissocier Jésus de la première alliance. Hein. On est obligé de tenir ça pour le comprendre, parce que c'est la seule manière de ne pas le comprendre avec le langage du monde, précisément.
Alors, qu'est-ce qu'on lit maintenant?
Alors, on va lire Jean 3. Voilà.
Qu'est-ce qui nous lit cette page?
Pourquoi?
Vous voyez de quel grand amour le Père vous a fait bon, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mais bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui est pur. Quiconque commet le péché commet aussi l'iniquité. Car le péché, c'est l'iniquité. Mais vous savez que lui a paru pour enlever le péché, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche plus. Quiconque pêche ne le voit ni ne le connaît. Mes petits enfants, que nul ne vous égare. Qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. Qui commet le péché est du diable. Parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Voilà pourquoi apparut le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Quiconque connaît de Dieu ne commet plus le péché, parce que sa semence demeure en lui. Et il ne peut plus pécher, parce qu'il est né de Dieu. À ceci se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Pratiquez la charité à l'exemple du Fils de Dieu, car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Non comme Caïn, étant du mauvais, il égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Ses œuvres étaient mauvaises. Tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, puisque nous aimons nos frères. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurait-il dans lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. À cela, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité. Et devant lui, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout.
Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous adressons à Dieu avec assurance. Et quoi que nous demandions, nous l'obtenons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui agrée. Et voici son commandement. Adhérer avec foi à son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous en a donné le commandement. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Par là, nous reconnaissons qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit dont il nous a fait don.
Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, j'évoquais tout à l'heure le schéma paulinien, la grâce qui donne la foi qui donne la justice, qui justifie, et la justice qui donne le salut. Et j'avais dit où est l'amour dans tout ça, et que l'amour, au fond, était à la jointure de ces quatre pôles. Et là, on voit bien, c'est très net, la grâce, c'est-à-dire la vie divine, c'est l'amour, Dieu est amour, on va le voir dans le chapitre qui suit. La foi, c'est-à-dire la vraie connaissance de Dieu, c'est de l'aimer et d'aimer les autres. Donc la foi, c'est l'amour. Ce qui donne la justice, c'est-à-dire la conformité des œuvres, et c'est l'amour. Et les œuvres ne sont pas bonnes sans amour. Et cette justice qui nous justifie nous donne le salut, et le salut, c'est encore l'amour, parce que je pense que vous avez été frappé au milieu du texte. Passer de la mort dans la vie, puisque nous aimons nos frères. C'est-à-dire qu'en fait, en aimant, nous ressuscitons. La résurrection se vit, d'où l'importance, hein, chez saint Paul, du kairos, de l'aujourd'hui, de Dieu, chez les prophètes. Nous sommes, Ionesco disait chronométrables, nous sommes dans le chronos, nous sommes dans obsédés par un temps arithmétique, mais le temps de Dieu, c'est un temps qui est arraché au temps, d'une certaine manière. Et donc, nous ressuscitons, nous sommes sauvés quand nous aimons. Donc, le salut, c'est l'amour aussi.
Non, c'est pas ça.
Passer de la mort dans la vie, puisque nous aimons nos frères.
Mais c'est une preuve, en fait.
Oui, c'est une preuve.
C'est une preuve, mais c'est une preuve, c'est pas en aimant nos frères, nous ressuscitons.
Bah.
C'est puisque nous avons été ressuscités. Et comme chez Paul, la résurrection appartient au passé, en fait. L'œuvre en est un signe.
Objectivement, c'est en étant associé à la résurrection de Jésus, mais subjectivement, c'est quand même là qu'on passe de la mort à la vie.
C'est parce qu'on est passé de la mort à la vie qu'on a une œuvre.
Ah oui, d'accord.
Voilà ce que je veux dire.
Oui.
C'est plus le fruit de l'arbre que... C'est pas en produisant des poiriers que le poirier devient poirier. C'est parce qu'il est poirier qui produit des poires. Hein.
Mais ça, sans le Christ, c'est pas possible.
C'est... Oui, alors c'est... Peut-être. Ça dépend ce qu'on entend par Christ, si vous voulez.
Oui.
Tout dépend ce qu'on entend par Christ. C'est ça la question. Et c'est une... Et d'ailleurs, souvent, on voit le traducteur gêné, parce qu'il rajoute des Jésus dans les traductions qui n'y sont pas. Assez souvent, on peut en rajouter un. Car ceci que désormais nous connaissons l'amour, lui, Jésus a donné sa vie pour nous. Mais il n'y a pas marqué Jésus dans le texte grec, en fait. Et assez souvent, moi, il y en a un qu'ils ont pas rajouté, et qui était rajouté dans ma traduction, au verset 5. Vous le savez, lui apparut pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Il n'y a pas marqué Jésus. Dans la traduction, il n'y a pas marqué Jésus. Mmh. Souvent, dans les traductions, il le rajoute à la place du lui. Et ça, celui, il apparaît assez souvent dans la première lettre de Jean, et c'est assez étonnant, parce que on voit bien de qui il parle, quand même. Je veux dire, c'est clair. Ils ont raison dans la traduction de mettre Jésus, comme ils l'ont rajouté dans l'endroit où je vous dis là. Hein. Lui a donné sa vie pour nous. Sauf que ce lui a donné sa vie pour nous, ça veut dire, ce Christ qui est en vous, il faut qu'il donne sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il donne sa vie pour nous. Mais en même temps, s'il met lui à la place de Jésus, en même temps, tout le monde comprend de quoi parle Jean. Mais en même temps... Ben on dit, mais ça parle peut-être aussi de moi, de l'autre, qui est lui, un lui aussi, en fait. Donc tout dépend de ce qu'on entend par Christ, qui nous donne la vie, si vous voulez. Parce que c'est quand même Dieu là qui est à manœuvre, en fait, j'allais dire. Non ?
Si, j'espère.
C'est Dieu qui est source de la résurrection, si je puis dire. Mm-hmm. Plus qu'une œuvre. Oui, Abigail ?
C'est quoi le terme en grec pour vie ici ?
Le
terme en grec pour vie ici.
Zoé.
Ouais.
Pour vivifier.
Pour vie ici.
Pour la vie ici.
Oui. C'est pas bios.
Moi, ce que je trouve beau, c'est l'espérance qui nous purifie. C'est quand même incroyable, ça, oui. Et puis l'idée que Dieu est plus grand que nos cœurs. C'est-à-dire, si on continue à trembler pour notre salut, on dit, ben écoutez, vous vous jugez d'une manière difficile. Écoutez, vous calmez-vous. Je veux dire, Dieu est beaucoup plus capable d'amour que vous. Donc Dieu, connaît, Dieu il vous aime. Et voilà, ça, je trouve, c'est absolument incroyable quand même, non? Si votre cœur, notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que nos cœurs, il connaît toutes choses et il vous appelle bien-aimé finalement. Il vous appelle mes bien-aimés.
C'est beau ce que tu soulignais, la présence de l'espérance. C'est vrai que c'est important.
L'espérance qui nous purifie, c'est quand même incroyable ça. C'est-à-dire que, oui, mais je dirais que toute cette dialectique entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable qui nous traverse tous, et je veux dire, on en est tous là finalement. Et là, on a bien senti à quel point c'est pas Rahner qui invente cette histoire, si vous voulez, que c'est une typologie. Marqué, si celui qui est enfant de Dieu, il n'y a plus aucun péché, il est dans la pureté totale. Je veux dire, là, on sent bien, si vous voulez, que le modèle explose, et le modèle identitaire, en disant, nous, on est une église de pur, de cathare. Et puis, à l'extérieur, c'est les infidèles. On entend cette dialectique dans tous les intégrismes. Il dit, mais il ne faut pas rigoler, je veux dire. Si vous étiez enfant de Dieu, comme vous le prétendez, à ce moment-là, vous seriez parfait. Je dis, j'en suis un peu loin, quoi. Pour ça, j'avais un... Pardon ? Justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est ce que dit Jean. Il dit, si vous jugez mal vous-même, faites confiance en Dieu. Lui, il vous connaît vraiment. C'est bien quand même d'avoir, je dirais, là, il invite quand même une certaine lucidité sur soi-même. De dire, globalement, où j'en suis. Et dans cette espérance, je veux dire, effectivement, si on dit, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. S'il n'y a pas cette espérance, s'il n'y a pas ce quelque chose qui est tourné vers la source de la vie, on n'est pas dans un cheminement, c'est clair. Or là, le cheminement, c'est ça qui peut permettre une purification. Mais donc il casse, je crois, si vous voulez, ces schémas avec un langage aussi outré que ça. Il propose une typologie et en disant, où vous en êtes finalement, et que ça soit en espérance que vous puissiez vous ouvrir. Et aussitôt dans cette typologie, il assène et des bien-aimés et des petits-enfants. Je dirais l'un comme l'autre nous permet de vivre cette tension en disant, bien sûr, je suis entre les deux. Donc j'ai du diable, quelqu'un en qui la vie ne peut pas être. On se dit, mince, alors ça chauffe. Hein. La vie ne peut pas être en moi parce que effectivement je ne suis pas parfait. Donc je suis du diable. Mais non, parce qu'il nous appelle bien-aimé, il nous appelle petit enfant. Et donc quelque part, il nous met dans une espérance comme celle de l'enfant qui est de grandir. Hein. Il dit, on ne peut pas en vouloir à l'enfant d'être petit. Il est petit parce qu'il est enfant. Donc si vous êtes petit enfant dans cette croissance de l'enfant de Dieu et puis... on ne peut pas vous en vouloir, c'est parce que vous êtes petit. Vous êtes petit parce que vous êtes enfant. Donc, c'est pas si dramatique que ça, quand même. Vous voyez ? Sauf que il faut être dans cette dynamique de croissance qui passe par l'espérance, qui passe par l'ouverture, oui, comme tu dis, à l'œuvre de Dieu, au Christ, à l'amour.
Et d'autant plus que Saint Jean a tendance, le rédacteur johannique a tendance à identifier foi et amour, justement, à en faire quasiment de réalité tellement grandiose. Alors, vous savez, Saint Jean, c'est l'aigle, hein, donc celui qui scrute le soleil. Donc l'espérance, ça réintroduit un peu de devenir, j'ai envie de dire, et un espace de croissance qui ne nous met pas d'emblée dans une foi statique ou dans un amour statique. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que, puisque notre méditation porte sur la foi, le mot foi ou le verbe croire en français sont des verbes qui sont un peu limités, parce que le verbe pisteo en grec, certes c'est un verbe aussi unique, mais combiné avec toutes sortes de prépositions, il prend des nuances très différentes en fait. Alors qu'en français on a juste croire à, croire en, et encore croire en quelque chose de statique ou croire en une réalité plus dynamique, la nuance nous échappe, alors qu'en grec c'est très net, parce qu'on croit avec, on croit à travers, on croit par, on croit dans, etc. Donc c'est le même verbe, mais avec toute une palette de prépositions. Et de fait, chez Saint Jean, les 110 occurrences du... 110 occurrences d'agapé, pardon. Mais il y a à peu près 90 occurrences du verbe croire. C'est toujours extrêmement souple, ductile, alors que le français a tendance à... Et le latin, déjà, hein, a tendance à rigidifier ce croire. Mais ce croire n'est pas uniquement un croire plénier, absolu. Il est aussi de l'ordre...
C'est pas la connaissance, en tout cas.
C'est pas la gnose au nom menteur, c'est la vraie gnose, la vraie connaissance, mais qui implique qu'on n'épuise jamais la rencontre avec le Dieu vivant et vrai. C'est-à-dire, à un moment, il le disait dans l'Évangile, je ne sais plus quelle était la formule... c'était à propos de la vision, celui qui a vu le Père, etc. Mais de fait, cette vision, elle est une conquête, elle est l'objet d'une approche infiniment, puisque saint Thomas lui-même laissait entendre, saint Thomas d'Aquin laissait entendre que la vision béatifique était encore un espace de croissance, que la vision béatifique ne met pas un terme ou un coup d'arrêt à la connaissance de Dieu,
oui,
mais
clair, oui, oui.
Dieu lui-même, dans son intimité, lui-même ne met jamais un terme au désir. Au fond, le désir ne s'arrêtera jamais. C'est ça la découverte et c'est ça la bonne nouvelle.
Mais si on croit que la vie éternelle, c'est être dans faire la sieste toute la journée, je crois qu'on se trompe, parce que si vous voulez, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire que la vie... et cheminement de vérité, c'est-à-dire qu'il faudra encore la vie éternelle, et encore cheminement, et encore don de soi. D'ailleurs, on le voit ici, il y a la vie éternelle. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc en fait, la vie éternelle, ce n'est pas un lieu dans lequel nous serons, c'est quelque chose qui est en nous, déjà maintenant, si vous voulez. C'est une dimension, c'est une qualité de l'être qui se manifeste justement dans le don de soi, dans le fait d'être dans l'espérance, d'être tourné vers l'autre qu'est Dieu et vers les autres que sont les autres. Donc voilà, la vie éternelle, c'est quand même ça qui nous attend, et c'est ça qui est présent en nous déjà maintenant. Mais peut-être faut lire un Jean 4, je sais
et
pas.
Dieu est plus grand que notre cœur, c'est-à-dire que c'est peut-être d'ailleurs ça la foi.
C'est noter ça.
Parce qu'il y a des gens qui ont un cœur, effectivement... gros comme ça, comme on dit. Mais Dieu est plus grand que notre cœur. Et la foi, même si on a un cœur misérable, un cœur desséché, un cœur qui fonctionne qu'à 10%, la foi, c'est de reconnaître ça, cette double transcendance de l'homme et de Dieu qui se rejoignent. Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, Jean 4, qui est le point culminant.
Madame, vous lisez si bien.
Voilà,
Vous lisez super bien, donc c'est...
Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. À ceux-ci, vous reconnaissez l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu annoncer qu'il vient, et dès maintenant, il est dans le monde. Vous, mes petits-enfants, qui êtes de Dieu, vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là, parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Aussi parlent-ils le langage du monde, et le monde les a écoutés. Les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui s'ouvre à la connaissance de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'amour vient de Dieu et s'enracine dans la foi. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mes bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Et nous, nous témoignons pour l'avoir contemplé que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous connaissons, pour y avoir cru, l'amour que Dieu manifeste au milieu de nous. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. En ceci, l'amour, par nous, est accompli, que nous avons pleine assurance pour le jour du jugement, parce que tel il est, lui, tels nous sommes, nous aussi, dans ce monde. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour. Mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous, nous aimons, parce que lui, le premier, nous a aimés. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne veut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère.
Alors, de toute façon, il nous reste une minute, mais bon, c'est un texte évidemment qui combine la mystique la plus haute, puisqu'elle nous révèle quelque chose de l'identité de Dieu, Dieu est amour, et le réalisme le plus concret, hein, sur l'amour du frère, bien sûr, le sacrement du frère, comme on dit quelquefois. On avait déjà vu avec l'épître de Saint Jacques que la foi sans les œuvres était vaine, mais ici il me semble qu'il y a une sorte d'étape supplémentaire, puisque on ne peut pas dire qu'on aime Dieu en haïssant son frère. Voilà. Alors, on voit aussi, bien sûr, que les auteurs de cette épître se battent sur deux fronts, d'une certaine manière, entre ceux qui voyaient dans la loi juive la condition du salut, et puis ceux qui, de l'autre côté, s'en remettaient complètement à la grâce de Dieu, et qui quelquefois évoluaient vers une certaine gnose. C'est pour ça que vous avez vu « Tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu ». C'est l'esprit de l'antichrist plutôt que de l'antéchrist, d'ailleurs. Donc c'est qu'il y avait effectivement des tendances à diviser Jésus.
Et je ne sais pas s'il y a divisé là-dedans, c'est ça la question. Il y a marqué qu'ils ne confessent pas, je crois que c'est eux qui ont un peu fait une glose.
Il faudra, j'ai pas regardé le verbe.
C'est au verset 4, non?
En tout cas, ça correspond assez bien. En tout cas, sa paraphrase qui est dit avant, tout esprit qui confesse Jésus venu dans la chair est de Dieu. Vous savez que c'est une obsession chez Jean depuis le prologue, effectivement. Il faut tenir le mystère de l'incarnation pour avoir une connaissance de qui est Dieu. Parce que lorsqu'on dit Dieu est amour, ça n'est pas une maxime philosophique, comme les platoniciens, par exemple, auraient pu le dire. C'est un amour qui s'est manifesté. Vous avez vu, le mot apparaît plusieurs fois, qui s'est manifesté dans l'histoire par le don de sa vie que fait Jésus, le Christ, etc. Donc il y a une volonté, et c'est toujours touchant, vous savez, les gens qui, dans l'histoire spirituelle, ou dans l'histoire des idées, ou dans l'histoire artistique, essaient d'incarner une troisième voie. Alors, c'est souvent les vaincus de l'histoire, ceux qui ont tenté une troisième voie, passent toujours pour être des défenseurs de causes perdues, mais c'est quand même touchant. Parce que là, entre le judaïsme légaliste de la Torah, dont Paul donne peut-être l'impression de s'affranchir un peu vite, et puis de l'autre côté, les tendances à la gnose, il y a là une voie qui est la voie chrétienne, qui est la voie de l'humilité, de la vie avec le Christ, et de la libération avec le Christ, et de la paix avec le Christ, dans l'amour, qui n'est pas un amour avec un grand A, qui serait une sorte d'idée platonicienne qui planerait au-dessus de l'histoire, mais un amour concret qui se reconnaît dans l'amour du frère.
En tout cas, le mot, la victime d'expiation pour nos péchés, ça aussi, c'est dans pratiquement toutes les traductions, mais à mon avis, c'est extrêmement discutable de traduire comme ça, parce que ilasmos, quand on regarde dans les Septante, c'est l'expiation. Donc on peut dire, ça fait référence au bélier du Yom Kippour, mais c'est pas si évident, si vous voulez. D'ailleurs, le bélier du Yom Kippour, il n'était pas pour attendrir la colère d'un dieu pour qu'il puisse pardonner au peuple, c'était absolument pas ça. Donc c'est vrai que derrière ça, on imagine tout de suite la théologie de la satisfaction vicaire, où le Christ paye sur la croix la note. C'est absolument pas ça qui est derrière ça. Le Christ ici, il est manifestation de l'amour et du pardon de Dieu pour nos péchés, c'est ça. Et c'est surréaliste de voir apparaître tout d'un coup cette idée de quelque chose qui est contraire à la grâce et à l'amour, où il faudrait acheter, il faudrait payer quelque chose par des souffrances, les souffrances d'un innocent, pour rendre possible le pardon des coupables. C'est quelque chose qui est totalement étranger à cette trajectoire, à cette pensée de Jean là-dedans. Non, voilà, comme tu le dis.
C'est la tradition œcuménique. Hein.
Oui, non, mais tout à fait. Non, mais pratiquement, ils ont tous ça. Ils ont pratiquement tous mis victime expiation, parce que, si vous voulez, c'est traditionnel depuis déjà, au moins Saint Anselme de Canterbury, mais sans doute un peu avant aussi. C'est au verset 10, hein, c'est 1 Jean 4, 10. Si vous voulez, quand on regarde dans les Septante, hein, ilasmos, c'est simplement le Kippour, si vous voulez. Donc le Christ a été fait, il a envoyé son Fils en Kippour pour nos péchés, en pardon pour nos péchés, il faudrait mettre, si vous voulez. Voilà, il a envoyé son Fils comme pardon, comme signe du pardon, comme source de pardon, comme source de... Voilà, qu'on puisse intégrer combien nous sommes aimés par le Père, finalement. Mais là, c'est ce que dit Paul aussi, si vous voulez. Il dit, déjà, moi, ça m'amuserait moyennement de donner ma vie pour un juste. Alors, donner ma vie pour des coupables, je le sens pas du tout, si vous voulez. Alors, le Christ, en donnant sa vie, je dirais, pour l'humanité, il manifeste un amour extraordinaire qui est signe de l'amour de Dieu. Et donc, on peut vraiment, du coup, être dans l'espérance, être dans la confiance. Si Dieu a fait un tel amour, on peut y aller, on peut faire confiance, dans la vie, dans son amour, et donc se tourner, j'allais dire, vers nos frères qui toujours nous dérangent, mais sans crainte à la limite, puisque de toute façon, l'essentiel est déjà gardé. Donc vous voyez, on n'a pas à écraser son frère pour se faire valoir, on n'a pas à craindre pour notre dignité. Si on est éclaboussé, parce que quand on aime son frère, en général, on reçoit comme remerciement une jolie baffe dans la figure, c'est normalement comme ça, parce que quand on aide son frère, on l'humilie dans un sens, on est le riche, il est le pauvre, donc forcément, il prend ça moyennement bien. Donc si vous voulez, non, on n'est plus dans cette logique-là, on peut être dans une logique de désintéressement, qui est plus, je crois, qui est assez vivifiante. Je trouve que c'est une des plus grandes pages de la Bible. Ce Dieu est amour est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce message-là qui est passé, je pense, dans la foi chrétienne. Et finalement, c'était pas si évident de tirer de la croix cette leçon-là, finalement.
C'est précisément ce que nous verrons la prochaine fois. Cet amour qui ne ment pas, trouve effectivement sur la croix son icône. Alors nous verrons dans notre parcours la foi de Jésus, parce qu'à un moment il faut quand même qu'on comprenne quelle est cette foi de Jésus, puisque Jésus aussi a la foi. Il est aussi homme, il a donc la foi. Donc mercredi 20 mars, nous nous acheminerons vers les fêtes pascales et nous méditerons sur Matthieu 26. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Ok, bon retour à vous tous.
Voilà, bon temps de carême.